دون سلي حط بوحين لبابك قولي عموكت دوبر تدكت حتى نلفن.
Il y a des gens qui demandent, alors est-ce que Dieu est fâché dans le sens où plus personne va à la synagogue? Depuis Pessah, il n'y a plus vraiment d'office, il n'y a plus de... Est-ce que Dieu est fâché?
Est-ce que Dieu est fâché parce que beaucoup de Beth Knesset ferment? Alors, je rappellerai d'ailleurs à cet insu que si vous parlez, par exemple, en Israël, il n'y a pas que les synagogues qui sont fermées. Les salles de sport sont fermées, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, les stades de foot sont fermés. Il faudrait peut-être un peu arrêter ce délire médiatique qui rend tellement de service à ces anti-religieux. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de certains qui profitent de cette situation pour montrer du doigt le monde. Par exemple, nous avons eu 82 rabbanim qui sont décédés du Covid-19 sur pas loin d'un million de personnes décédées du Covid-19. Donc, ou un demi-million, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, pour ne pas dire de bêtises. Mais par exemple, en Israël, on a eu beaucoup plus de gens non religieux qui sont décédés du Covid-19 que les rabbanim. Seulement quand il y a des rabbanim, je ne comprends pas où est Dieu. Alors, pour répondre à la question très intelligente, à savoir, est-ce que Dieu est fâché parce qu'on ferme les synagogues? Réponse, pas du tout. Et c'est marqué dans deux endroits dans la Gemara que Dieu ne sera jamais fâché, ne sera jamais découragé de la prière du Tzibourg, pas du tout. Par contre, oui, il y a un message à retenir. C'est le comportement que nous avons dans les Beth Knesset, de parler dans les synagogues, de se boire de l'alcool dans les synagogues. Qui a dit que c'était permis? Qui a permis une chose pareille? Depuis quand les synagogues sont devenues des bars à rigolade? De parler au téléphone, de parler pendant le Kaddish, de parler pendant le Sefer Torah, de parler pendant la Chazara. Tout ce que je vous dis, c'est pas un sorcier noir qui vous le dit, c'est la halakha. Il est strictement interdit de faire tout ça dans une Beth Knesset. Même de dormir, c'est interdit. Il y a une marloquette dans les poskim à savoir si une personne dort sur son stander dans une synagogue, est-ce que c'est permis ou pas. Il y a une marloquette là-dessus. La tzniout dans les synagogues. Aujourd'hui, des femmes sans juger personne. Les manches à l'air, la jupe courte, maquillée, défilée de mode. Mais j'ai rien contre toi, madame. Mais tu sais que le Zohar, il dit que quand tu montes comme ça de Bezrat Nashim, toute la prière de la synagogue ne dépasse pas le plafond. Vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant de comment ça se passe techniquement parlant dans une Beth Knesset? Mesdames, est-ce que vous iriez comme ça dans une mosquée? Maquillée avec des talons sakom, comme vous dites en France. Est-ce que vous iriez avec des jupes courtes dans une Beth Knesset? Avec des décolletés comme ça? Est-ce que vous iriez comme ça dans une église? Ou pire encore, dans une mosquée? Allez-y! Donc, oui, il y a un message. Stop avec notre façon de dénigrer l'importance du respect d'une Beth Knesset. C'est ça le message à retenir. Et non pas que Dieu en a marre de nous, que Dieu est fâché. Dieu n'est pas fâché. Dieu est un éducateur qui nous aime plus qu'une mère pour aimer n'importe quel de ses enfants. Seulement, on est en train de nous dire, stop avec votre façon de vous comporter. C'est devenu, je parle au téléphone, le mec, il a les tuilines devant nous. Jeans, il parle au téléphone. Tiens, tiens, raconte-lui la blague. Avec les tuilines sur la tête. C'est de ça dont on parle. Stop d'avoir donné un côté comique aux endroits les plus sérieux du monde du judaïsme. Non pas que Dieu en a marre, comme une espèce d'ignorant qui essaie avec une démagogie d'embrouiller les gens et de dire que, vous voyez bien que Dieu en a marre de nos synagogues, Dieu veut plus des religieux, mais ras les chalons de dire de telles bêtises, des synagogues sont pleines grâce à Dieu. Nous, on était plein à la synagogue ce Shabbat, le ministère nous interdit pas plus de 10 par capsule, eh bien 10, 10, 10, dehors, il y avait encore 40, 50 personnes. Là, Yeshiva, grâce à Dieu, oui, mon fils, est pleine. Il faut arrêter les délires. Et quand on dit « Dieu veut que les synagogues ferment », je dis ça avec un ton qui sort du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est trop de mensonges médiatiques qui arrivent aux oreilles des gens. Et là, on dit « Ah, mais tu te rends compte, il n'y a que les synagogues qui ferment, il n'y a que le religieux qui meurt. » Peut-être que dans ce cas-là, c'est le religieux qui ont tort. Mais arrêtez les délires. On ne présente même pas 5% ou 3% des gens qui sont décédés dans le monde. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, quoi, Dieu il est fâché contre les Français qui sont décédés ou les Américains qui sont atteints à je ne sais pas combien de millions ou en Russie? Vous voulez qu'on parle de la Chine, tout ce qui a été caché? Vous savez qu'il y en a qui parlent de plusieurs millions de morts en Chine? Seulement, il n'y a pas de médias. Dès qu'il s'agit de religieux, ah, c'est les projecteurs. Alors, je ne réponds pas à cette dame ou ce monsieur en répondant à cela. Je réponds à cette bêtise médiatique qui a fait énormément de dégâts de montrer du doigt le monde religieux, comme certains veulent se servir de cela en disant « bravo, voilà, voilà le monde religieux ». Comme ça, j'ai bonne conscience de rester un ignorant de la Torah, un chiloni du judaïsme, et dire en tout cas « moi, je suis ce que je suis » parce que c'est dangereux en ce moment d'être religieux. Hein. T'es religieux, t'as le virus et tu meurs. C'est faux. C'est faux et archi faux. Regardez bien les chiffres avant de vous prononcer. Regardez bien les chiffres avant de vous prononcer. Et j'entends ces mensonges dans tous les domaines. Quelqu'un dit récemment, oui, mais je comprends pas le gouvernement qui nous laisse partir à Ouman. Et le journaliste pose une question très intelligente et anodine. Il lui dit, quoi, vous êtes allé directement à Ouman d'Israël? Il dit, non, je suis passé par la Turquie. Mais jusqu'à quand tu vas vivre dans la bêtise humaine? Jusqu'à quand on vit dans le mensonge? J'arrive pas à comprendre la tête des gens. Donc, d'opérer du vrai, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le gouvernement n'a organisé aucun avion pour partir d'Israël à Ouman. Mais que toi, tu fasses tes traduits en passant par l'Angleterre, par la Turquie, par Londres, par ce que tu veux, j'en sais rien. Mais comment? Le gouvernement nous a demandé de ne pas y aller. D'accord? Tu décides d'y aller. Tu te trouves dans un système. J'ai parlé avec le Sahar Arié Derry. Ouais, qui a fait des dizaines de tentatives. Vous savez ce que lui ont répondu les Russes? Vous savez ce qui s'est passé en Ukraine? Ce que je vous dis, c'est aussi de la bouche du Rav Arié Derry. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit que s'il redonnait un seul coup de téléphone, il couperait les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que vous voulez? Tout sans les religieux. Les religieux, ils sont pas là. Mais vous n'avez pas les éléments dans les mains. Regardez les chiffres. Il y a un décompte qui a été fait, il y a 82 rabbanim qui sont morts du Covid-19 sur combien de centaines de milliers? Et quand on parle des synagogues, oui, un message à la verrue de Kippour. Vous voulez, moi, je vous donne une explication que j'invente à l'instant. Allez, je vais vous faire plaisir. Eh les mecs, ouais, John Way, hein, c'est pourquoi il n'y a plus de synagogue? Je veux dire, parce qu'on va avoir le Beth Amikdash et Dieu, il ferme les petits trucs pour ouvrir le grand truc. Ouais, ça, j'ai inventé, super. Et pourquoi pas? Les gens, ils ont Internet avec Dieu. Maintenant, ils savent exactement ce que Dieu. Ah, Dieu, il en a marre de synagogue. C'est le Nachon. Kras Veshalom. La Gemara, le Talmud, on ne peut pas le contredire. Dieu n'en aura jamais marre de nos bêtises. Ce dont il en a marre, c'est de notre comportement qui doit changer dans les synagogues. Et là, franchement, il n'a pas tort. Voilà ce que j'ai.
J'ai quand même une petite question parce qu'elle est quand même pas mal revenue au début, je suis en train de voir. Vous pensez quoi, vous, de l'actualité par rapport au Covid-19? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une plaie au niveau mondial? Que je à chaque fois, vous voyez dans le monde? Ou vraiment pour une remise en question? Et sur les valeurs, j'ai envie de vous dire, quand on a été tous confinés, on est quand même revenu aux valeurs. Cuisiner chez nous, passer du temps en famille, arrêter un peu tout ce qui était médias, tout ça. Vous allez répondre à la réalité?
Si tu as une heure, je veux bien te la donner parce que c'est une réponse qui demande au moins une heure, pour moi. Mais ma femme me dit non, on n'a pas le temps.
Voilà, faire.
Je pense d'abord et avant tout que la première leçon qu'on peut tous retenir du Covid-19, c'est l'humilité dont se doit de faire preuve l'humanité entière, et non pas que les Juifs, par rapport à un microbe ou à un virus, si vous préférez, ou peut-être une bactérie, j'en sais rien. Mais ça nous a donné une grande leçon que ça peut mettre le monde en chaos. Ça peut fermer des pays. Ceux qui étaient riches se sont retrouvés en bas de l'échelle. Vous savez qu'en Israël, il y a toujours eu le rêve de posséder une salle de mariage parce que ça faisait des millions par mois. Et aujourd'hui, ce sont les premiers touchés. Les chanteurs qui se croyaient à l'abri se retrouvent aujourd'hui au chômage, les plus grandes vedettes. Les cinémas sont vides. Ça veut dire qu'on est face à une situation où tout le système sur le domaine mondial a été freiné par quelque chose d'inattendu, peut-être fabriqué par les hommes, peut-être non, j'en sais rien. Bon, les rumeurs courent. Et les preuves arriveront tôt ou tard un jour, je l'espère en tout cas, parce qu'on a le droit de connaître la vérité. Mais je pense que la première chose à retenir, c'est l'humilité. La deuxième chose, c'est que depuis que le Covid-19 existe, j'entendais toujours, avant cela, parler du football. Tout le temps, football, 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 le dieu international de la planète bleue, le football. Depuis que le Covid-19 existe, on n'entend pratiquement plus parler du football. Et d'autres valeurs ont commencé à surgir. Par exemple, si vous regardez dans les réseaux sociaux, hormis le côté médical et scientifique, dans le monde entier, les islamistes, les chrétiens, les bouddhistes, les sectes du monde entier parlent tous de Dieu. Et on n'a jamais autant entendu dans les médias parler du Messie autant que cette période. Les autres parlent de l'Apocalypse, certains citent la guerre de Gog ou Magog, et les rabbanim n'arrêtent pas d'envoyer en ce moment, certaines personnes. Voilà ce qu'a dit le Khatam Sofer, voilà ce qu'a dit le Rabbi Lubavitch, voilà ce qu'a dit. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui est certain dans ce Covid-19, c'est que l'humanité arrive à un tournant dans l'histoire qui est très intéressant. C'est que je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais ça ne pourra pas laisser le monde continuer tel qu'on l'a connu. Ou, premier cas de figure selon moi, ça va chuter encore beaucoup plus bas que ce qu'on a connu moralement. Ça veut dire que si le Covid-19 est réglé demain et qu'on a un antivirus, ça va être la Java à Broadway. Les gens vont voyager encore plus et s'éclater. Et c'est... comme quelqu'un qui remonterait de l'océan. Ou deuxième cas de figure, il va y avoir une ascension spirituelle comme jamais on l'a connue de toute l'humanité. Et pour cette réponse-là, je répondrai qui vivra verra. C'est vrai que les valeurs familiales sont revenues. J'ai un ami qui s'appelle Jacques, avec qui je me suis entretenu. Il m'a dit, écoute, pour moi, le Covid-19, ça a été le dévoilement de la valeur familiale. Il a retrouvé sa femme. Des gens qui devaient divorcer, en fin de compte, sont restés ensemble. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas aller signer le deal. Mais il y a eu des valeurs. Et puis, il y en a d'autres qui se sont connus et se sont détestés parce qu'ils ne se connaissaient pas assez bien. Et puis, ils se sont déchirés. Il y a eu coups et blessures, il y a eu insultes. Il y a beaucoup de gens qui veulent divorcer après le Covid-19, qui ont déjà prévu cette date-là. Je pense que chacun a pris une leçon à son niveau à lui. Et ce qui nous unit tous aujourd'hui, c'est justement l'envie de nous revoir. J'expliquais dans un cours récemment que, bizarrement, enfin, j'avais expliqué ça déjà au mois de mars, quand le Covid a démarré. J'avais cité la paracha de Metsora, où tous les événements qu'on vit, on les retrouve là-bas. Par exemple, quand on faisait du Lashon Hara, on était touché par une maladie de peau qu'on appelait la lèpre, qui n'était plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que devait faire cette personne-là? Elle devait s'enfermer 7 jours, et puis encore 7 autres jours. Donc, elle était Yoshev Badad. Vas-y, Yoshev Badad, bidoud. Tu t'enfermeras seul chez toi. Et ensuite, combien de jours? 7, et encore 7 si nécessaire. La décision qui avait été prise au sein du gouvernement israélien, je ne sais pas comment c'était dans les autres pays, c'était 7 jours et encore 7 jours. Rautrabi, hein, je ne sais pas. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce que nous dit la Torah? Que la personne, étant donné qu'elle avait une maladie, donc, Dieu à sa bouche, devait mettre un tissu sur sa bouche. Bizarrement, on se retrouve avec un tissu sur la bouche. Et puis pour finir, nous étions dans une situation de manque, c'est-à-dire que quand la personne ressortait après ses 14 jours dans sa solitude, eh bien, elle était repressée de retrouver les gens de qui il avait du mal au préalable. Et je trouve que c'est incroyable parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est exactement le retracé de ce que l'on vit. Quand on reçoit la famille, on est constamment dans l'ignorance de l'habitude, de nous critiquer les uns les autres. Et aujourd'hui, pour les fêtes, eh ben, on ne peut pas se voir. Dieu a peut-être créé le manque pour qu'on fasse peut-être une chose qui nous manquait énormément dans cette génération, c'est de donner rendez-vous avec notre propre conscience, de réaliser qu'il n'y a pas plus cher que la famille. Et que de passer du temps à toujours trouver des défauts chez les autres, eh bien, Dieu nous donne l'occasion maintenant de nous dire, est-ce que vous vous manquez les uns les autres? Comment vous allez vous revoir quand tout ça sera fini? Il y a tellement de choses à dire, je t'ai dit, ça c'est...
Non, bah, ça fera peut-être l'objet d'un autre direct si Dieu veut, parce que ça fait plus d'une heure qu'on est en direct. En tout cas, vraiment, Khazak, Rav, merci de votre temps, à Valérie aussi. Si vous voulez souhaiter quelque chose, nous faire une petite bénédiction avant Yom Kippour, on est preneur, comme vous désirez.
Je pense que, comme l'enseigne Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est celui aussi que le changement de la tête, le changement d'esprit. Rosh Hashinoui, en hébreu, veut dire changer d'état d'âme, changer de façon d'être. Et si j'ai un message à donner à celui qui veut en tout cas écouter ce que j'ai à dire, parce qu'il y a toujours mieux, c'est de changer, de devenir meilleur, de devenir différent de ce qu'on était l'an dernier, et de prendre sur soi l'estime d'exister, de savoir qu'on vaut tous quelque chose sur Terre, que Baruch Hashem, on a tous un rôle à jouer. Peut-être à des degrés différents, peut-être avec des pays différents. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'unité de chacun de nous, la complémentarité nous donnera, Bezrat Hashem, le droit à l'existence pour créer quelque chose de fondamental au sein du puzzle de notre peuple. Nous avons le devoir aujourd'hui, Bémet, de devenir meilleurs. Alors, si vous me dites dans quoi? Ben, pour ceux qui sont pratiquants, plus de joie, plus d'attention au sein des mitzvot. Ne pas dire chacun les bureaux comme si j'aurais dit « donne-moi des chaussettes », par exemple. Peut-être avoir plus de kavanot, de ne pas oublier qu'on a un pays et que ce pays attend désespérément chaque juif. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas évident. Puis c'est un autre débat. Et ok, je viens, tu me donnes quoi comme boulot, toi le rabbin là, vas-y, tu viens, vas-y, ok, t'as raison. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je ne suis pas Dieu. Ce que je sais, c'est que c'est la dernière adresse pour nous tous. Il faut s'orienter vers Eretz Israël parce que l'histoire continuera ici. Le dévoilement et la Géoula se passera ici, en Eretz Israël. Alors, si tu me poses la question, j'aimerais m'adresser à tous les couples.
Bien
plus
sûr,
de oui. Plus de gentillesse, pas d'insultes, pas de mots mal élevés, pas de malédiction. Les maîtres qu'on prenne sur nous la force du dialogue et non pas de constamment condamner l'autre en disant « De toute façon, tu comprends rien. De toute façon, on n'a rien à faire ensemble. Si Dieu vous a marié, c'est que vous avez quelque chose à faire ensemble. C'est lui qui marie les couples. De la reine, Bezrat Hashem, qui est plus de calme, plus d'éducation. Si j'ai à m'adresser aux parents, je leur dirais, arrêtez de vendre vos enfants face à des appareils, des films, des dessins animés immoraux pour avoir le silence dans vos vies. Ne vendez pas vos enfants si facilement à des choses qui les rendront pires quand ils grandiront. Investissez-vous dans l'éducation, investissez-vous dans le jeu avec eux, investissez-vous dans l'étude avec eux. Arrêtez de les vendre aussi gratuitement que leur donner un portable dans lequel ils vont surfer vers le Geinam. Si je dois m'adresser au Rabbanim, je leur dirais descendez encore plus vers le peuple. Intéressez-vous vraiment à comprendre le problème. Investissez-vous, hormis la Torah, de plus de psychologie pour comprendre mieux les problèmes psychologiques de cette génération au lieu de que de venir avec quatre points cardinaux de la halakha pour les adapter à des gens qui ne sont plus aptes à écouter ce genre de choses parce qu'ils sont détruits par les épreuves. Si je dois m'adresser, Bezrat Hashem, aux enfants, c'est leur donner le goût de l'amour, le goût de la vie, l'exemple à suivre. Les enfants sont notre première priorité dans l'éducation. Rien ne passe avant eux, ni notre propre famille, ni nos propres parents ne passent avant nos enfants. Donnez-leur une bonne éducation, de l'amour. Donnez-leur l'exemple à suivre au lieu de constamment leur dire ce qui ne va pas chez eux. Si je dois m'adresser à ceux de Chutz Laaretz, d'abord avant tout, je leur souhaiterais de très bonnes fêtes, leur dire que Bezrat Hashem, j'espère qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils puissent avoir le mérite d'acheter un appartement en Israël pour venir nous rejoindre dans de meilleures conditions, car quand on a un toit, il ne reste plus qu'à nous nourrir, Bezrat Hashem. Et je leur souhaite tous les bonheurs du monde, et que tant qu'ils ne viendront pas en Israël, pour X raisons, qui les concernent, eh bien, je leur souhaite de tout mon cœur d'avoir le mérite d'aider ceux qui vivent en Eretz Israël, de rester en Eretz Israël, dans les meilleures conditions du monde. Ce seront, ou ce sera peut-être pour eux, eh bien, leur partie, ou leur participation, d'avoir vécu en Israël, alors qu'ils n'y étaient pas. Et si j'ai un mot à dire au Mashiach, eh bien, j'aimerais lui dire simplement, soigne-toi vite de tes blessures, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de toi que maintenant. Et si j'ai quelque chose à dire à Hachem, c'est Mikol Alef Todaraba. J'ai jamais, jamais pu comprendre comment Dieu était rempli autant d'amour, de patience. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir combien Dieu est bon, combien Dieu est longanime, combien Dieu est capable, d'un seul coup d'éponge, d'effacer tellement de choses qui mériteraient un peu plus de temps. Todaraba Hachem d'être notre Dieu. Hachem hu elokimen od milevado. Et si je devais m'adresser à moi-même, eh bien, je dirais Baruch Hashem, Ani Yehudi, je suis juif, je suis fier de l'être, j'ai une merveilleuse épouse, qui m'a donné le mérite de vivre dans cette belle maison grâce à Dieu. Et toda l'el qu'on a la Torah, parce que tout comme une voiture ne peut pas rouler sans essence, nos âmes de juifs, disait le rabbi de Lubavitch, ne peuvent pas vivre sans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Achen Bezrat Hashem, plus de joie, mais surtout plus de changement. Qu'on soit plus sincère. T'es avec quelqu'un, il veut pas de toi qu'il arrête de jouer. Tu es avec une personne, tu es dans le travail, tu connais une personne qui n'a pas de travail, donne des coups de téléphone, parle, fais quelque chose. Ce soir, j'ai fait un cours sur le chesed de Kippour et j'ai expliqué qu'à la veille de Kippour, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est du chesed avec ceux qu'on aime. Appelle une personne. Grâce à Dieu, on n'a laissé aucune personne, mon épouse et moi, par la mouta que nous avons ici de Ouel Moshe. On a distribué à Makolev. Une centaine de familles, plus de 100 000 shekels ont été distribués pour les fêtes de Yom Kippour, de Rosh Hashanah. On n'a laissé personne. Et j'ai tapé aux portes pour avoir l'argent nécessaire pour que chaque famille reparte pour les fêtes. C'est ce conseil-là que je vous donne. Caillez-vous le sang pour vos frères. Donnez. Et si vous n'avez pas d'argent, donnez un sourire. Et si vous n'arrivez pas à discuter, alors au lieu de vous énerver, d'insulter, connaissez-vous Mamash, le domaine du silence. Cessez pour les femmes de passer votre temps pour celles qui le font uniquement avec des hommes, avec des copains d'école ou je sais pas quoi. Stop avec ça. C'est pas ça être juif. Al tarbe sichay maisha ki sofo yoresh geinam. Dai de parler constamment avec n'importe qui. Il y a pas de copains copines. Vous allez me dire, ouais mais ça c'est pour vous les religieux. Regarde, t'as ton chapeau, ta barbe à te pendre avec. T'as raison. Peut-être que moi j'ai tort. Mais quand on voit les résultats, ça me donne raison. Al tarbe sicha. Et vous, les hommes, au lieu de chercher le bonheur ailleurs parce que ça va pas à la maison, posez-vous la question, est-ce que vous avez fait ce que vous deviez avec vos femmes pour les rendre heureuses? Au lieu de chercher le sourire d'une autre, pourquoi ne vous êtes-vous pas efforcé de donner le sourire à votre femme? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour elle? Où on en est avec les Shalom Bayit? Alors, quand on aura réglé déjà tous ces problèmes internes, on parlera dans le prochain rendez-vous des problèmes externes, si vous voulez. Mais je pense qu'on a déjà tellement de travail à faire avec nous-mêmes, au sein de nos familles, de notre communauté, de notre pays, de notre judaïsme, que jusqu'à Yom Kippour Abba, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, on aura du pain sur la planche.